Bonsoir à tous, vous êtes bien sur Radio Libertaire 89.4, la radio sans dieu ni maître ni publicité, et c'est la première émission Jeudi Noir de l'année, avec Michel, José et moi-même.
Jean-Mathias.
Voilà, on est très heureux de vous retrouver pour cette année. On va vous parler ce soir un petit peu comme d'habitude de livres, et même d'un assez gros livre ce soir, hein, puisqu'il s'agit d'un livre qui s'appelle « Nationalisme et culture » de Rudolf Rocker, qui est un livre qui a été édité aux éditions CNT Région Parisienne en 2008, et qui fait écho en fait à un autre livre de Rocker dont on vous avait parlé lors d'une émission l'année dernière, livre qui lui est intitulé « Théorie et pratique de l'anarcho-syndicalisme » que vous pouvez trouver aux éditions ADN et qui a été publié lui en 2010, il n'y a pas très longtemps. Donc on vous avait déjà parlé un petit peu de Rocker à ce moment-là. Et donc le nom de Rocker justifie, si on peut dire, le premier titre que nous a proposé José, titre des Cockney Rejects qui s'appelle « The Rocker », tout simplement. Et voilà. Alors l'émission, on va commencer par vous peut-être vous présenter un petit peu la biographie de Rocker pour avoir une idée un petit peu de sa trajectoire personnelle et politique surtout. Et puis ensuite, on développera avec Michel un certain nombre de thèmes qui sont abordés dans le livre Nationalisme et culture, qui est au fond son livre central, hein, qu'il a écrit et réécrit un petit peu tout au long de sa vie. Donc d'abord, alors qui est Rudolf Rocker?
Donc bon, pour ceux qui n'auraient pas écouté attentivement l'émission du 19 février 2012, on va faire un bref rappel. Hein, mais bon, vous avez le droit aussi de téléphoner pour vous plaindre que vous connaissez déjà tout ça et tout, parce qu'on l'a déjà dit. Bon, il n'empêche que bon, voilà, il faut bien en parler quand même pour ceux qui, parmi vous, ignoreraient malencontreusement l'existence de Rudolf Rocker. Donc, alors bon, Rudolf Rocker, c'est un Allemand. Pour une fois, c'est pas un Russe. Parmi les grands théoriciens de l'anarchisme, il est né à Mayence en 1875 et il est mort de façon assez traîtreuse, il faut bien le dire, aux États-Unis. Et oui, Jean-Mathias y reviendra pour la période qu'il préfère chez Rocker. Et donc, il est mort en 1958. Alors, bon, Rocker a été publié très très tardivement en France, enfin par rapport à, justement à ses écrits, et c'est pour ça on peut en remercier les éditions Libertaire et Aden. Il y a encore plein de choses de lui qui ne sont pas publiées, parce que c'est quelqu'un qui a beaucoup écrit. Alors comment est-il venu à l'anarchisme? Alors il n'est pas venu immédiatement. Alors contrairement aussi à quelques anarchistes célèbres, il n'est pas né prince ou de la haute noblesse. Il est né dans une famille très modeste allemande et il va, je crois, y perdre ses parents relativement vite. Il va surtout être élevé par un de ses oncles qui va l'initier à la pensée socialiste. Et donc assez logiquement, il va rejoindre le mouvement socialiste allemand. Mais il s'en détache très très vite, pour plein de raisons, parce que l'autoritarisme et comment dirait aussi l'intégration du mouvement socialiste allemand à l'État allemand lui déplaise, et à la suite d'un congrès assez célèbre qui s'est tenu aux Pays-Bas, auquel il est allé à pied, et duquel les anarchistes ont été exclus, il revient avec Dieu et l'État de Bakounine dans sa poche, et là c'est un peu la révélation. Donc, ah oui, vous trouverez aussi tout un tas d'informations intéressantes là-dessus, il faut le signaler tout de suite sur le site À Contre-temps.
Ouais, on mettra le lien là de la revue
sur notre site.
Voilà, et une revue en ligne avec deux numéros qui ont été consacrés à Rocker en 2007 et donc qu'on vous recommande vivement. Hein.
Oui, parce que bon, il y a la partie biographique aussi, la partie théorique, et pour ça c'est assez riche. Et il y a aussi des textes de Rocker qui sont traduits nulle part ailleurs, je crois, en français en tout cas. Donc, à 18 ans, ensuite, il va quitter l'Allemagne. Bon, il s'est fait exclure du mouvement socialiste entre-temps. Il a essayé de fonder un autre truc. Ça n'a pas trop marché. Et il va aller vivre en France. Un petit peu, à Paris. Et deux ans après, donc il arrive à Paris en 1993, deux ans après, en 95, il part à Londres. Et là,
Paris, si j'ai bien lu, il est en contact, ou pas forcément direct, mais il est en pleine période du mouvement anarchiste illégaliste.
Hein, oui, hein, tout à fait.
Donc il voit effectivement les développements, ce qu'on a appelé l'illégalisme à l'époque, de Bono, etc.
Mais Bono, c'est plus tard. 1893, c'est plutôt tous les attentats anarchistes du type Caserio, Ravachol et quelques autres. Bono, c'est plus 1910 dans ces eaux-là. Mais effectivement, il va assister à toute cette période, et comme il est influencé aussi par Kropotkine, et Kropotkine à ce moment-là soutient la propagande par le fait, mais là-dessus, il reviendra parce que c'est aussi important dans les moyens d'action finalement que privilégie Rocker. Et il ne fait pas de doute que justement la propagande par le fait n'en fait pas partie, quoi, pour lui, je pense. Donc son séjour à Paris entre 1893 et 1895, il arrive à Londres où il va exercer son métier de relieur. Et plus important encore, sans doute, il va agir et militer dans les milieux ouvriers et anarchistes juifs. Alors je crois qu'il ouvre quelque chose qui est de l'ordre d'un centre culturel, enfin, il se penche, il se consacre énormément à l'éducation populaire, déjà à ce moment-là. Et il écrit beaucoup, il apprend le yiddish, il anime une grève en 1912, et ça je pense que c'est un moment très important, parce qu'on voit que c'est pas simplement un théoricien, Rocker. C'est aussi quelqu'un qui a toujours été impliqué dans le militantisme, et à chaque fois qu'il écrit, c'est aussi dans des buts militants. Alors pas militant au sens où il n'est pas toujours en train de défendre une ligne politique, forcément, mais en tout cas, il vise, on pourrait dire que pour lui, je crois, éduquer et militer, c'est presque... ça va forcément ensemble. Après, on pourrait pas dire que la militance se limite à l'éducation en écrivant des bouquins, puisqu'il organise aussi des grèves.
Ouais. Oui, c'est là qu'il se forme à l'action syndicale.
En fait. Oui, c'est complètement.
En 1912, là.
Et c'est très important pour la suite, puisqu'après, ben, il vit en Angleterre, mais il est allemand, et donc, il va être un déserteur pour les Allemands, mais il va être considéré comme un traître potentiel pour les Anglais. Donc, il est interné pendant 4 ans, durant la Grande Guerre.
Après avoir pris position contre l'entrée en guerre, hein, contrairement à Kropotkin en 14, il est sur la ligne pacifiste en 14. Ouais.
Ben, Kropotkin rejoint la ligne militariste en 1916. Je sais plus trop quelle était sa position en 14.
Mmh. Mais bon. Enfin, pour Hoger, c'est clair, parce que ça sera pas la même chose en 39.
Voilà.
Mais en 14, il est sur une ligne pacifiste.
Et donc, il est en Toul.
Voilà.
Comme pas mal de pacifistes anglais à ce moment-là. Un des plus célèbres étant Bertrand Russell, même s'il fera pas 4 ans de tôle, lui, parce qu'il est anglais. Ensuite, donc, en 1918, il retourne en Allemagne, où quand même il y a pas mal de choses qui se passent à ce moment-là, et il va militer au sein de la FAUD, c'est-à-dire, je le dis pas en allemand parce que j'ai pas d'accent allemand, hein, j'ai jamais fait d'allemand, mais c'est l'Union des Travailleurs Libres d'Allemagne. Voilà, je traduis librement. Mais je pense que Jean-Mathias me contredira pas.
Hein, Jean-Mathias, pas.
Voilà. Non, non, pourtant, il a fait de l'allemand, lui. Donc, et c'est lui qui va rédiger la déclaration de principe de ce syndicat. Et il va promouvoir par là tous les idéaux de l'anarcho-syndicalisme, dont il devient des principaux théoriciens à ce moment-là. Et ainsi, donc, en 23, il va fonder aussi l'Association internationale des travailleurs. Ou la refonder, l'AIT, puisqu'elle va regrouper tous les syndicats libertaires de cette époque. Très tôt, à ce moment-là, il a déjà rompu de façon assez nette, encore plus nette, je pense, avec la révolution russe, qui avait pu séduire certains libertaires au début. Et Rocker, lui, dès les années 20, comme pas mal d'autres libertaires, il reconnaît là le capitalisme d'État qui n'a rien à voir avec ce qu'il espère du socialisme. Bon, ça, faut pas l'oublier, hein, c'est des gens comme lui qui ont les premiers critiqué l'URSS de façon assez radicale. Donc, voilà. Bon, évidemment, Rocker, tout ça, l'Allemagne, le narco-syndicalisme, quand les nazis arrivent au pouvoir, ça craint. Oui. Donc, un de ses plus proches amis et collaborateurs se fait envoyer en camp de concentration, et lui décide de quitter l'Allemagne juste après l'incendie du Reichstag en 33. Donc, on peut penser que c'est prudent et que c'était avisé. Et de là, il va partir aux États-Unis, où il va poursuivre ses activités militantes, en particulier pendant la guerre d'Espagne. C'est le moment aussi où il écrit Théorie et pratique de l'anarcho-syndicalisme.
Sur demande d'Emma Goldman.
Sur une demande d'Emma Goldman. Donc, militante allemande aussi, qui était partie aux États-Unis, qui a été expulsée, qui a été en URSS, qui s'est aperçue assez vite aussi que l'URSS n'était pas le parti des travailleurs, et qui s'est tirée en Angleterre, où il faisait quand même, c'était un peu plus facile de survivre. Donc, il va aussi écrire, un journal anarchiste, hein, et un journal anarchiste qui est pas sans intérêt, puisque Chomsky, adolescent, fréquentera les bureaux de ce journal et déclarera plus tard que c'est un texte de Rodolphe Rocker qui a attiré son attention pour la première fois sur les rapports entre anarchisme et libéralisme, le libéralisme classique. On y reviendra plus tard.
Ouais, t'as effectivement cette citation de Chomsky là, et puis il y a aussi un autre admirateur de Rocker et notamment de nationalisme et culture, c'est Russell dont t'as parlé, dont t'as parlé tout à l'heure là, qui considère que c'était un des plus grands livres de philo politique, de l'entre-deux-guerres qu'il ait lu quoi. Et c'est intéressant quoi que de figures comme ça. Cite Rocker qui pour le coup à part eux reste un illustre inconnu quand même.
Complet.
Globalement.
Ouais. Mais bon ouais, non, Russell Chomsky c'est pas mal comme admirateur. Je pense que Je pense qu'on aura du mal à trouver mieux. Donc voilà, alors il faut quand même dire quelques mots sur la période politique préférée de Jean Mathias, parce que à la fin, Rocker va devenir, sans tout à fait le renier explicitement, va devenir assez critique à l'égard de l'anarcho-syndicalisme, et va évoluer vers des positions, comment dire, peut-être moins révolutionnaires. Ce qui ne veut pas dire qu'il était content de la société dans laquelle il vivait, mais je pense que c'est lié à deux choses. C'est déjà l'expérience de l'Allemagne nazie et du totalitarisme, même de loin, ça l'a un peu refroidi, je crois. Au sens, ça ne l'a pas fait perdre foi en ses idéaux, mais il était profondément convaincu qu'il valait mieux vivre aux États-Unis qu'en URSS ou que dans l'Allemagne nazie, par exemple, ou que dans l'Italie fasciste. C'est-à-dire que même s'il n'aimait pas trop la démocratie libérale, enfin, ou la démocratie telle que lui l'a définie, il a fini par penser que il était beaucoup, comment dire, au moins dans ces régimes politiques là, il était possible de militer, alors que dans d'autres c'était tout simplement impossible.
Non, ce qui était
pas assez. Et puis oui, donc il y a ça, et puis d'autre part, il a évolué beaucoup aussi sur comment dire, sur l'idée que il fallait élargir en quelque sorte l'opposition et sortir de l'usine, c'est-à-dire ne plus se concentrer uniquement sur la classe ouvrière comme classe révolutionnaire. Peut-être que tu peux dire deux trois mots, parce que c'est
trois mots rapides. Enfin là tu disais effectivement période préférée, non, c'est une boutade. Non, ce qui m'intéresse, ce que je trouve courageux en fait dans cette période là, c'est pas tellement le contenu politique, parce que ça je suis pas en accord avec ça, mais par contre je trouve que c'est ça témoigne d'un certain courage intellectuel, quoi, parce que c'est un vrai théoricien de l'anarcho-syndicalisme, et puis pas des moindres, quoi. C'est le type, il fait des versions à la fois les versions hard, les versions digest pour le grand public, qui milite, etc. C'est un type qui consacre quand même 25-30 années de sa vie à ça, et qui effectivement après est quand même capable sur la fin de sa vie de prendre en compte aussi un certain nombre d'évolutions historiques, et de mettre ce que son approche a pu avoir de dogmatique à ses yeux de côté, quoi. Et ça, je trouve qu'effectivement c'est une forme d'esprit critique qui est suffisamment rare pour être souligné. Après sur le fond, politiquement effectivement, comme tu dis, il s'oriente finalement après, dans les années 50, un peu avant sa mort, c'est une forme d'anarchisme, mais qui est aussi assez finalement assez classique, hein, qui est pas révolutionnaire effectivement, qui est plus qui s'appuie plus sur la lutte des classes, et qui est plus sur une approche évolutionniste. Il privilégie plutôt l'engagement municipal auprès des contacts allemands qu'il garde à cette époque-là. Donc le municipalisme, ouais. Le syndicalisme toujours.
Et les coopératives.
Et les coopératives, en gros. Donc bon, on est plus sur des options révolutionnaires, et puis sur des options de syndicalisme de classe. Mais il reste fidèle à cette tradition-là. Voilà, simplement je l'indique. Bon, il a beaucoup de polémiques aussi à l'époque, parce qu'il a été accusé de révisionnisme. C'est un peu le révisionnisme du mouvement libertaire et de l'anarcho-syndicalisme, Rocker. Mais même si politiquement sur le fond on peut en dire beaucoup de choses, je trouve que c'est suffisamment courageux intellectuellement pour être souligné, quoi. Voilà.
C'est le Bernstein noir.
Absolument. Absolument.
Voilà. Donc sur cette boutade malencontreuse, José va nous mettre de la musique, une fois de plus très inspirée. Thank you. soir, vous êtes sur Radio Libertaire 89.4, la radio sans Dieu, ni maître, ni publicité. Vous écoutez Jeudi Noir avec Jean-Mathias, José, qui nous a passé un morceau de Charlie Parker qui s'intitule fort opportunément Rocker. Donc voilà, vous apprécierez. Je vous prépare tout de suite, le pire est à venir, José est d'humeur taquine. Donc, un José. Et, il est dans la dénégation, évidemment, il prétend que tout ça est très sérieux. Nous allons cette fois-ci vous parler un petit peu plus directement de l'ouvrage qui nous intéresse ce soir, Nationalisme et culture de Rudolf Rocker, publié aux éditions Libertaires par les soins de la CNT Région Parisienne. Alors, Jean-Mathias.
Bah, deux mots pour présenter le livre de manière très générale, avant qu'on rentre un peu dans le détail. C'est un livre, c'est un gros livre, hein, faut le dire déjà, c'est un gros livre de 600 pages, dans lequel, au fond, Rudolf Rocker essaye de faire une espèce de grande fresque à la fois historique et politique sur l'histoire de l'État, au fond, et des résistances qui lui ont été opposées. Donc ça c'est le cœur du livre, hein, avec évidemment ça lui donne l'occasion de préciser lui quelles sont ses analyses politiques et puis quels sont les programmes ou les prescriptions qu'il propose, hein, à la fin du livre. Alors je voudrais dire peut-être deux mots avant qu'on rentre dans le détail sur le titre Nationalisme et culture, pour voir de situer de quoi il s'agit. Donc le nationalisme, d'après Rocker, c'est quoi? C'est au fond une espèce d'idéologie un petit peu qui crée une communauté un peu corrompue, la nation, qui est en fait un produit de l'État. Et une fois que c'est pas l'inverse, hein, d'après Rocker, c'est pas la nation qui va créer l'État, contrairement à ce qui est défendu souvent dans les théories politiques classiques, quoi, avec l'idée que, par exemple, au moment de la Révolution française, il y a la nation française qui s'affirme et puis qui va donner naissance à l'État républicain. D'après Rocker, c'est l'inverse, c'est-à-dire que l'idée de nation et donc l'idéologie du nationalisme est une fabrication, une production de l'État, c'est-à-dire que lorsque l'État est en place, il crée une certaine conception de la communauté, qui est une conception de la communauté complètement dégradée et corrompue, d'après Rocker. Et c'est ça qui s'appelle le nationalisme, hein, et qui est, d'après Rocker, un des ennemis principaux, au fond, du militant libertaire et puis des idéaux émancipateurs que lui défend. Donc ça, c'est sur le sens qu'il faut donner à cette notion de nationalisme, hein. Auquel Rocker oppose justement la notion de culture. Et la notion de culture, alors c'est une notion qui n'invente pas, qu'on trouve dans la philosophie allemande, notamment la philosophie des Lumières. C'est au fond tout ce qui contribue au développement et à l'épanouissement de l'être humain en tant qu'esprit libre, on peut dire ça de cette manière-là. Donc c'est une idée qu'on trouve déjà chez des philosophes comme Schiller ou Humboldt, qui sont des philosophes des Lumières allemands, et que Rocker reprend cette idée-là. Et la culture, c'est au fond tout ce qui elle se manifeste à la fois à l'échelle de l'individu, et aussi c'est toutes les productions libres de la société humaine. Voilà. Et au fond, c'est ça que Rocker entend opposer, finalement, à l'État et au capitalisme en général, c'est-à-dire une société produisant librement ce dont elle a besoin, et puis et les œuvres qui la charment, l'élèvent et qui permettent de l'émanciper. Donc c'est comme ça qu'il faut comprendre ce couple, hein, qui fait titre dans le livre « Nationalisme et culture ». Alors, c'est... Ensuite, une des notions et un des concepts les plus intéressants du livre, c'est un petit peu ce qui charpente le début du bouquin, c'est l'analyse que Rocker propose de la notion de pouvoir, hein, puisqu'au fond, il considère, mais ça tu vas peut-être nous en dire un peu plus, Michel, là-dessus, il considère lui que tout pouvoir est de nature quasiment religieuse, au fond, y compris le pouvoir politique, que la religion est finalement le modèle, hein, du pouvoir et donc de la servitude, évidemment, en face. Alors comment ça se présente, ça?
Alors ça se présente d'abord, je pense qu'on peut souligner l'aspect anti-marxiste, pour mettre les choses un petit peu en place, c'est-à-dire que, comme beaucoup de penseurs anarchistes, Rudolf Rocker reproche, entre autres choses, s'il y en a plein d'autres, à Marx et aux marxistes, d'effacer, en quelque sorte, la domination, au profit de l'exploitation économique. Et pour des gens comme... Parce que bon, cette thèse que le pouvoir est religieux, fondamentalement, elle vient directement de chez Bakounine et de Dieu et de l'État. Pour les lecteurs de Bakounine, c'est pas une surprise. Donc, Rocker, lui, il y a cette idée-là, donc le pouvoir est religieux. Bon, ça c'est un premier truc. Et puis, attends, où je voulais en venir déjà ? J'ai perdu le fil. Oui, donc domination, exploitation. Et qu'est-ce qui va faire tenir l'exploitation finalement ? Le fait que les gens acceptent d'exploiter, c'est justement, c'est la domination cette fois-ci idéologique. Et l'idée de gens comme Rocker, c'est que on peut pas séparer en quelque sorte domination et exploitation. Ou il faut toujours les considérer ensemble. On peut pas faire comme Marx et mettre en quelque sorte la religion au second plan. Comme ennemi de l'émancipation. Parce que c'est assez net chez Marx, dans les textes les plus connus, en particulier dans celui de la citation hyper célèbre « La religion, c'est l'opium du peuple ». Ce que dit Marx, au fond, c'est que le curé n'est qu'une émanation du patron. Que si on se débarrasse du patron, le curé disparaîtra. Et ce que disent les anarchistes et Rocker en particulier, c'est que le patron ne tient grâce au curé. En partie. On pourrait formuler les choses de façon un petit peu brutale, comme ça.
Ou encore que le patron est un curé et que le curé est un patron.
Oui.
C'est le même type de rapport de pouvoir qui est exercé.
Plus profondément, oui. Ouais. C'est, mais effectivement. Après, dans les rôles après sociaux, effectivement, les deux tiennent ensemble. Ouais. Comme à la rigueur, on pourrait dire abstraitement, ils sont interchangeables. Et donc, il y a une grosse insistance de Rocker là-dessus sur le côté sur la servitude volontaire. Qui reprend directement de la Boétie. C'est-à-dire que pourquoi est-ce que le pouvoir tient essentiellement parce que les gens acceptent de s'y soumettre.
Et c'est là-dessus, effectivement, comme tu dis, que c'est ce que tu veux dire quand tu insistes sur la différence avec Marx. C'est-à-dire que c'est effectivement dans les analyses marxistes et matérialistes un peu orthodoxes, on va dire, l'idée c'est qu'il y a d'abord une exploitation matérielle de la force de travail, etc. Et c'est que ce rapport-là qui est réel, qui est premier. Et effectivement, derrière les rapports de pouvoir, y compris politiques ou juridiques, religieux, etc., enfin tout ce qui est institué est simplement une conséquence de ce rapport premier-là.
C'est la superstructure opposée à l'infrastructure. Voilà. Bon.
Et alors que Rocker, lui défend l'idée qu'au fond, la relation de pouvoir, elle est première. Il n'y a pas un rapport matériel ou d'exploitation matérielle avant. Il y a d'abord des rapports de pouvoir qui sont, voilà, et que les individus et aussi les sociétés subissent. Et que ces rapports de pouvoir, ils doivent être combattus en tant que tels. Pas simplement comme des symptômes ou des conséquences, hein, c'est ça, de rapport d'exploitation matérielle.
Complètement. Donc, d'où son insistance finalement aussi sur la religion, sur la politique comme religion. Alors, c'est un livre qui est bourré d'exemples assez riches où il montre que la plupart des révolutionnaires qui conspuaient la religion, une fois arrivés aux commandes, la remettent sur celle vite fait parce qu'ils s'aperçoivent qu'ils en ont besoin.
Ouais. C'est pratique.
Pour tenir les rênes. Genre, bon, un de ces exemples, une de ces bêtes noires, c'est Napoléon. Robespierre aussi en fait partie. Pas mal. Et il montre que les deux, avec une petite différence près, c'est que Robespierre était sans doute un croyant sincère, alors que Napoléon était complètement athée.
Un opportuniste sincère.
Il était sincèrement opportuniste. Ouais. Et les deux, une fois au pouvoir, remettent la religion sur les rails et comprennent que, enfin comprennent, pensent comprendre en tout cas qu'ils en ont besoin pour assurer leur pouvoir.
Staline a fait pareil.
D'une certaine manière.
Avec l'orthodoxie.
Avec l'orthodoxie marxiste.
Quelques années avant, mais il a fini par comprendre.
Oui.
Que ça marchait bien.
Oui, mais il a aussi remis plein d'autres trucs, hein. L'impérialisme, oui. Le nationalisme, le nationalisme ouais. Tous ces trucs-là, ouais. Staline aimait beaucoup, parce que bon, je trouve que c'est intéressant de faire du nationalisme l'antithèse finalement de mouvement émancipateur, parce qu'au XXe siècle, justement, tout l'internationalisme s'est brisé sur le nationalisme finalement, qui avait un pouvoir d'attraction beaucoup plus grand en termes d'affectivité.
Mais qui a probablement assez largement encore toujours
oui.
Le pouvoir d'attraction.
Ouais. Il suffit de voir la Coupe du Monde de foot. Alors, ce genre de choses. Donc, sur les analyses de la religion, Rocker est assez proche, je trouve, à des tas d'égards de Bakounine, qui, à mon avis, reprend aussi des thèses d'un autre philosophe allemand qui s'appelle Feuerbach, où l'idée, c'est que, finalement, pourquoi est-ce que la religion est l'archétype du pouvoir ? C'est parce que la religion insiste énormément sur le rapport de dépendance entre l'homme et Dieu. L'homme est faible et Dieu est puissant. Et donc l'homme doit craindre quelque sorte Dieu. Et l'homme a tendance à attribuer toutes les qualités qu'il trouve en lui, à un degré assez minime, à une espèce d'être supérieur qui les posséderait toutes et qui aurait tout pouvoir sur lui. Et donc c'est à partir de cette relation de dépendance absolue, finalement, entre l'homme et Dieu, que justement Rocker va voir l'archétype du pouvoir. Et finalement de l'usage aussi que peut faire un homme politique de la religion, à différents niveaux, pas seulement à un niveau religieux, mais aussi à un niveau politique. C'est-à-dire, par exemple, quelque chose qui conforterait les analyses de Rocker, ou dans lesquelles il pourrait voir un apport à sa théorie, ou une confirmation de sa théorie, c'est tous les gens qui vont vous dire « mais de toute façon, on peut rien contre l'État. Ils sont trop forts, ils sont trop puissants, ça sert à rien d'agir, on est faible. » Et donc, au bout du compte, on doit obéir. Donc, voilà l'idée de... Une idée que je trouve assez intéressante à certains égards, qu'on pourrait critiquer, que... Alors là, je le cite, hein, il cite la Boétie, il reformule la Boétie. La Boétie expliquait de façon irréfutable, bon, faut voir, que la tyrannie s'appuie moins sur la force brutale que sur le sentiment de dépendance profondément enraciné dans l'être humain, et qui part un épouvantail sans consistance de toutes ses propres forces intérieures, pour ensuite, ébloui par tant de puissances présumées, se soumettre à lui aveuglément. Bon, je trouve qu'il y a plus de Feuerbach que de la Boétie là-dedans, mais en même temps, je pense que ça résume pas mal.
C'est-à-dire que au fond, l'idée, c'est que tous les pouvoirs que l'homme dont l'homme a le sentiment de manquer, il les attribue au pouvoir. Donc, alors, effectivement, dans le cas de la religion, il les attribue à Dieu. C'est-à-dire que toutes les qualités dont il s'estime manquer, il les attribue à Dieu. Toutes les forces qu'il estime ne pas avoir, il les attribue à Dieu. Et évidemment, voilà, proportionnellement, plus il se sent faible, et plus effectivement, il va créer de lui-même, d'une certaine manière, un Dieu doté de pouvoir considérable. Mais ça veut dire aussi, du coup, si on est d'accord là-dessus, c'est que au fond, le pouvoir, il n'y a pas de contenu, quoi. C'est-à-dire que le pouvoir, c'est ce qu'on y met en réalité.
Là, j'ai une citation qui dit ça, c'est que aucun pouvoir ne se maintient en raison de caractéristiques particulières qui lui seraient inhérentes. Sa grandeur repose sur des qualités cachées que la foi des hommes lui confère. Comme Dieu, tout pouvoir terrestre n'est qu'un tableau noir, vide, qui ne redonne à lire que ce que les hommes y ont écrit. Donc effectivement, le pouvoir est vide.
Il est vide, ça veut dire qu'il n'a pas forcément le visage d'une armée de flics, armée de prêtres.
En même temps, l'armée de flics, elle te tombe vite sur la gueule quand tu commences
à bouger. On est d'accord. Mais si on suit ce que dit Rocker, ça veut dire que le pouvoir effectivement peut avoir des formes des contenus extrêmement variés. Mais c'est toujours cette même forme là, c'est-à-dire que l'individu se sent faible, se sent limité, se sent manquer de tout un tas de choses qui va attribuer et qui va projeter à ce qui va être le pouvoir justement auquel il se soumet
complètement. Alors je passe à une thèse. On passe plein de détails plein de choses intéressantes. Mais ce qu'il faut voir, c'est que Rocker construit sa théorie suivant des couples d'opposés qui sont exclusifs pour les besoins de l'analyse, parce qu'il ajoute que dans la réalité, ils sont souvent mélangés. On pourrait penser à Weber et à l'idéal type un peu là, sur la séparation de ces choses-là, mais bon, peu importe. Une thèse qui est intéressante sur le sujet du pouvoir, c'est que pour Rocker, le pouvoir, on pourrait faire des équations, pouvoir égale religion égale État, et ça, c'est avec l'antithèse de société et culture. Alors, est-ce que tu pourrais, c'est toi qui t'es penché là-dessus un petit peu, sur qu'est-ce que c'est que la. Pourquoi est-ce qu'il est important tant d'importance à la culture, Rocker. Comment est-ce qu'il a défini aussi on peut peut-être revenir là-dessus, puisque tu en as dit deux, trois mots tout à l'heure.
Tu viens de le dire, c'est-à-dire que le raisonnement de Rocker fonctionne par couple. C'est-à-dire que le pouvoir, au fond, c'est le miroir de nos faiblesses, ou de ce qu'on croit être nos faiblesses, d'une certaine manière. Et ce pouvoir, en retour, il est donc forcément destructeur, d'après Rocker. Il est destructeur, et destructeur de quoi? Destructeur de tout ce qui serait affirmation, développement, épanouissement spontané de ce que nous sommes. Alors individuellement, ça c'est sûr, mais aussi de ce qu'une société est, c'est-à-dire une société en tant qu'elle est capable de produire des moyens de subsistance, mais aussi des œuvres d'art, de la littérature, de la musique, tout ce dont elle a besoin.
Des échanges économiques
bien entendu,
parce que pour l'État est un obstacle à l'échange économique libre.
Tout à fait. Une production économique et matérielle libre, mais l'idée, c'est qu'au fond, évidemment, plus les individus et plus la société se sent faible, et plus effectivement elle s'en remet à un pouvoir qui va incarner tout ce qu'elle a, tout ce qui lui manque, tout ce qu'elle pense qui lui manque à cette société, plus évidemment ce pouvoir va être en phase destructeur et sans limite a priori de tout ce que la société peut avoir de créatif, de spontanément créatif. Évidemment, ça se marque aussi, ça se décline à l'échelle des individus. Et donc, au fond, l'idée de Rocker, et on retombe sur le titre dont je parlais rapidement tout à l'heure, l'État, c'est au fond assez largement une création, effectivement, une création humaine, largement, qui va ensuite devenir une machine de guerre contre la culture, c'est-à-dire contre tout ce que les sociétés humaines peuvent produire spontanément, qui permettent aux individus de s'émanciper, de se développer, de s'épanouir, de cultiver leur liberté, d'affirmer aussi leur spontanéité, le fait qu'ils puissent effectivement produire ce dont ils ont besoin, rendre la vie tout simplement plus belle et meilleure pour aller vite. Et donc l'État devient une machine de guerre destructrice de ça. Et pour revenir à ce que je disais tout à l'heure, le nationalisme, c'est au fond la réponse de l'État à la culture. C'est-à-dire, c'est une manière de dire, la société, c'est ça, c'est la nation. C'est-à-dire, c'est vous sous ma botte. Voilà, c'est vous sous ma botte, c'est ça la société. Hein. Et donc le nationalisme, et du coup, évidemment, on comprend comment ça fonctionne dans le raisonnement de Rocker, c'est-à-dire que le nationalisme est une machine de guerre contre la culture, et contre les sociétés humaines en général. Donc c'est comme ça que ça procède. Mais alors du coup, ça a évidemment aussi des conséquences dans les conceptions politiques de Rocker, c'est-à-dire que le domaine de la lutte, comme on peut dire, il n'est pas seulement, et il n'est même pas prioritairement sur le terrain économique. C'est-à-dire qu'il ne s'agit pas simplement de collectiviser ou de rendre collective la propriété des moyens de production, comme ça peut être dans les approches plus marxisantes. Il s'agit effectivement de créer, de transmettre et de développer une culture de l'émancipation au sein de la classe ouvrière, en l'occurrence, d'après Rocker, parce que c'est sur ce terrain-là qu'on combat, au fond, la servitude et le pouvoir dans ce qu'il a d'efficace, au fond, dans la manière dont il peut effectivement agir et contraindre les individus et la société. Donc ça veut dire qu'effectivement, Rocker, et tu l'as dit toi tout à l'heure, toute sa vie a lié de manière très étroite le militantisme et l'engagement politique à l'éducation. Et effectivement, l'émancipation, pour lui, c'est un travail à la fois de militantisme, notamment dans le cadre des syndicats, et le syndicalisme, pour lui, c'est avant tout c'est presque une université populaire aussi. C'est-à-dire que c'est un instrument de lutte, bien sûr, et c'est une université populaire, et c'est ça qui retrouve dans la tradition anarcho-syndicaliste un peu à la française, ce qui est développé par Peloutier, par évidemment tout le mouvement des bourses du travail, qui caractérise le mouvement anarcho-syndicaliste, c'est cette idée que le syndicat, c'est un outil de lutte sur le terrain effectivement de la lutte économique, et en même temps c'est aussi un instrument de culture, d'éducation intellectuelle et quasiment morale.
C'est pas l'école du parti.
C'est pas l'école du parti parce que c'est pas seulement l'école du parti dans la mesure où effectivement il s'agit de former. Alors il s'agit aussi de former les cadres de la future économie fédéralisée. Ça c'est très clair. Mais il s'agit aussi évidemment de construire et de défendre et de développer une culture qui soit susceptible d'émanciper les individus et puis et la classe ouvrière en tant que telle, quoi. Et donc ça, Rocker, pour le coup, peut-être que c'est le fil conducteur tout au long de sa vie. C'est-à-dire, c'est cette conviction que finalement, sans minimiser, bien sûr, la lutte économique, et puis c'est incontournable, mais surtout ne jamais oublier ça. C'est-à-dire, effectivement, l'importance de l'émancipation culturelle et de la culture comme terrain et comme enjeu de lutte. Pour la classe ouvrière ou plus tard, de manière plus générale, pour le peuple. Et donc, si effectivement on a cette stratégie-là, ça veut dire qu'il faut repérer ses ennemis, et au premier rang desquels, il y a le nationalisme.
Sur ce, on va vous diffuser un petit peu de musique, qui n'aura aucun rapport avec Rocker, évidemment, sauf peut-être si... Thank you. Vous êtes sur Radio Libertaire 89.4, c'est la radio de la Fédération Anarchiste, donc la radio sans Dieu ni maître ni publicité. Ce soir, nous vous parlons d'un ouvrage de Rudolf Rucker, Nationalisme et Culture, édité par les éditions Libertaires, chez les éditions Libertaires, par les soins des éditions CNT Région Parisienne. Nous venons d'aborder le thème finalement du pouvoir, qui serait l'essence religieuse.
J'oublie quand même cette transition musicale absolument
formidable.
Formidable. À savoir une trouvaille de José. Il s'agissait du Rudolf Rucker Thema par un groupe qui s'appelle les Rudolf Rucker.
Il est trop fort ce José.
Il est trop fort.
Donc tu es prêt à voir.
Tu voulais ajouter un truc.
Tu m'as coupé le sifflet. Donc bon, j'essaie de revenir à des choses un petit peu plus peut-être sérieuses, je sais pas. Oui, on vous parlait donc de la conception que fondamentalement inspirée de Bakounine, je crois, mais très développée par Rudolf Rucker, du pouvoir comme religieux, comme essentiellement religieux. Et là, on voudrait aborder, pour le temps qui nous reste, un autre thème assez important et intéressant, je trouve, bien que polémique aussi, qu'on trouve chez Rucker, c'est les rapports qu'il peut faire entre finalement libéralisme, anarchisme et démocratie, sous la forme d'une opposition assez tranchée entre, entre libéralisme et démocratie. Alors, faut expliquer parce que ça peut sembler, premier abord, un peu surprenant. Parce qu'on a tendance à parler justement de démocratie libérale. Donc d'accoler deux termes qui, pour Rucker, sont antithétiques, c'est-à-dire s'opposent. Bon, il faut déjà préciser que selon Rucker, Rucker s'inspire énormément des Lumières, comme pas mal d'anarchistes, dire comme Bakounine, comme Kropotkine aussi. Tous ces gens-là tracent un trait entre leur théorie, leur pratique et les théories qu'on pouvait trouver chez les Lumières.
Ouais, on peut citer Godwin aussi.
Dans les références rationalistes, très très inspirées par les Lumières. Et pour Rucker, qu'est-ce que l'anarchisme ? C'est une forme de synthèse entre le libéralisme et le socialisme. Et l'idée de Rucker, c'est que l'anarchisme cherche en quelque sorte à réaliser le libéralisme classique, qui, lui, a échoué, en partie à cause de sa glorification de la propriété privée et du besoin qu'avait la propriété privée d'être adossée à l'État, finalement.
Et il y a effectivement, comme tu dis, ça c'est la manière dont lui pense effectivement le projet anarchiste. Il y a aussi, il part au fond aussi du constat que le socialisme lui-même hérite finalement de ces deux mouvements précédents, c'est-à-dire le libéralisme et la démocratie. Et il y a le socialisme, c'est ça, c'est l'héritier de ces deux mouvements-là. Et ces deux mouvements, ils travaillent le socialisme et le mouvement socialiste de l'intérieur et ils créent des oppositions qui petit à petit deviennent irréconciliables. Et effectivement, les anarchistes sont les héritiers dans le socialisme du libéralisme classique. C'est ça l'idée, avec comme tu l'as dit l'idée que l'échec du libéralisme classique, c'est le fait qu'il n'a pas mesuré l'importance de la propriété privée et le fait que du coup la propriété privée rendait impossible finalement le projet politique du libéralisme classique.
Oui, parce que bon, parce que quand on parle de libéralisme classique, ici on n'entend évidemment pas du tout le capitalisme qui a pu se développer, ou les théories qu'on appelle néoclassiques, qu'on trouve développées chez des économistes comme Hayek ou Friedman, qui elles sont clairement, clairement en faveur du pouvoir des plus riches. Donc il s'inspire de... Rucker parle de façon assez élogieuse de gens comme Locke, un philosophe anglais donc du XVIIe siècle, qui écrit le traité du gouvernement civil. Il parle aussi assez de Bentham, un utilitariste anglais. Donc il y a toutes ces traditions-là. Et alors, ici pour écarter quelques contresens possibles autour du mot libéralisme, qui aujourd'hui est assez mal famé, quand le Rucker parle du libéralisme, il ne parle pas du tout de ce que nous, ici en France, on a tendance à entendre par libéralisme. C'est quelque chose d'assez différent, et c'est quelque chose qui va être centré pour Rucker, et c'est ça qui lui importe, sur finalement l'idée que l'individu est à la fois le principe et la fin, et le but
de la vie sociale.
De la vie sociale. Et que, par conséquent, tout doit être centré autour de l'établissement, de l'épanouissement possible de cet individu. Et donc, sur la question politique proprement libérale, qui serait comment limiter le pouvoir de l'État, qui sera transformé par l'anarchisme, est-ce qu'on peut éliminer l'État ? Mais Rocker voit dans cette deuxième question, la question anarchiste, un prolongement, un développement de la première question, la question libérale, à savoir comment réduire le pouvoir de l'État et comment faire en sorte que ce pouvoir ne cannibalise pas la société.
Et donc en face, évidemment, le principal ennemi, la principale menace sur ce projet-là, c'est ce qu'il appelle, enfin c'est ce qu'il désigne lui par le terme de démocratie. Et dans le terme de démocratie, il faut préciser un peu, parce que là-dessus, je crois que son approche est quand même assez discutable. Ce qu'il vise, c'est essentiellement la démocratie républicaine telle qu'elle est théorisée par Rousseau, avec l'idée qu'au fond, les lois doivent exprimer la volonté générale, c'est-à-dire la volonté de tous, et que cette volonté est unanime, et qu'en face, bien tout ce qui relèverait de l'initiative individuelle est frappé plutôt de l'arbitraire, au fond, de l'arbitraire et de l'injustice. Et que donc finalement, ce qui doit primer, ce qui doit faire la loi, c'est uniquement cette volonté générale. Le risque majeur d'une conception comme celle-là de la politique et du pouvoir, c'est d'une part pour Rocker que les individus se trouve sans aucun recours face à une volonté générale de ce type, parce qu'elle a toutes les apparences de la liberté, si on en croit Rousseau. C'est-à-dire que Rousseau, c'est connu, considère que la loi, lorsqu'elle exprime la volonté générale, c'est l'expression la plus parfaite, et c'est même la seule, au fond, expression possible de la liberté. C'est-à-dire qu'on n'est jamais aussi libre que quand on obéit à la loi. Et alors évidemment, dans ce cas-là, le pouvoir de l'État, le pouvoir de l'État démocratique, si on suit les catégories de Rocker, c'est au fond le pouvoir qui peut potentiellement le plus despotique pour les individus. C'est-à-dire que face à une loi qui est censée exprimer la seule voie possible de la liberté, eh bien il n'y a aucun recours pour l'individu. L'individu est absolument pieds et poings liés face à cette volonté générale qui au fond est la forme la plus aboutie de la raison d'État. D'après Rocker. Et d'après lui également, c'est cette notion de volonté générale, ce qu'il appelle donc l'héritage démocratique dans le socialisme, qu'on retrouve dans les mouvements du socialisme autoritaire, donc au premier rang desquels le marxisme et puis les communismes au sens large, qui défendent une certaine conception du socialisme étatique, ce que Rocker, à la suite d'autres libertaires, dénonce comme capitalisme d'État. Une conception qui oppose sur l'illusion que finalement l'État peut, d'une certaine manière, libérer les individus. Pourquoi il pourrait libérer les individus ? Parce que les socialistes autoritaires pensent, avec Rousseau, qu'une loi juste, c'est-à-dire qui exprime la volonté générale, bien c'est au fond une loi qui libère les individus, alors que Rocker y voit un despotisme sans aucune alternative, au fond. Et c'est en ce sens-là qu'il tient, lui, dans le mouvement socialiste, à assumer finalement l'héritage du libéralisme. Il formule ça même de manière, il dit finalement l'anarchisme c'est l'exécuteur testamentaire du libéralisme classique, c'est-à-dire que le libéralisme classique est mort, il a échoué, ça il n'y a pas de doute à avoir là-dessus. Il a pas vu qu'en glorifiant la propriété privée, eh bien on allait droit vers les ravages qui sont ceux du capitalisme moderne et des injustices qui provoquent. Donc le libéralisme classique est mort, mais les principes sur lesquels reposait le programme libéral, ces principes-là, ils sont toujours à défendre. Ils doivent être défendus, d'après Rocker, et ceux qui finalement en sont porteurs aujourd'hui, ce sont les partisans du socialisme libertaire, les anarchistes. Et c'est ça qui va lui servir au fond de boussole, pour positionner à la fois le projet politique libertaire, sa critique des communismes et du capitalisme d'État, et finalement son renvoi dos à dos de tous les admirateurs de l'État, qu'ils soient sociodémocrates, communistes et nazis d'ailleurs, dans certaines de ses analyses. Donc voilà la manière dont ça se présente. Alors bon, comme on dit, on arrive à la fin de l'émission, juste deux mots peut-être là-dessus de commentaires, comme tu suggérais. C'est à la fois une dichotomie qui est intéressante, qui historiquement tient en partie aussi la route. Après, on peut quand même se poser la question de savoir si démocratie égale volonté générale, égale Rousseau, égale despotisme, quoi. C'est-à-dire que il y aurait des choses à dire là-dessus. Il y aurait peut-être une émission même quasiment complète à faire là-dessus. Qu'effectivement le démocratisme républicain ait tendance parfois, fortement tendance à imposer ses vues, à être oppresseur à l'égard des individus, de la société peut-être. Après, en faire le berceau de tous les fascismes, tous les stalinismes du XXe siècle, c'est peut-être un peu rapide, on dira. Hein. Voilà, mais il n'en reste pas moins que ce livre et on vous le recommande vivement parce que c'est bon, voilà, il est assez impressionnant de culture, d'intelligence, aussi bien sur le plan de l'histoire que de la théorie des idées politiques. Donc, il s'agit du livre de Rudolf Rocker, Nationalisme et culture, que vous trouverez aux éditions Libertaires. Publié par la CNT Région Parisienne.
Voilà, c'est Jeudi Noir, c'est terminé pour ce soir. On revient dans deux semaines. Donc vous pouvez trouver toutes nos émissions qui sont sur un site, mais vous pouvez aussi trouver d'autres choses sur ce site. C'est gurdulu.org, donc G-U-R-D-U-L-U, gurdulu.org. Vous pouvez trouver de la musique gratuite, de la bonne musique. Et vous pouvez aussi trouver, si vous ajoutez Jeudi Noir, le site de l'émission, avec toutes les émissions qu'on a pu enregistrer, qui sont là, avec des références, des liens internet avec ce dont on a parlé, et des informations supplémentaires. Voilà, vous pouvez aussi nous contacter à l'adresse Jeudi Noir 2012 @gmail.com. Voilà, on vous laisse avec Entre Chien et Loup pour l'émission. Qui va durer encore une heure. Amusez-vous bien. Well, the kids are all hopped up and ready to go. They're ready to go now. The guys that circle them, they're going to the discotheque with no door. But she just couldn't stand. She had to break away. Well, New York City really has it all. Oh yeah.
Sheena is a punk rocker. Sheena is a punk rocker.